Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio B pour une nouvelle chronique de Socialement Vôtre. Alors, le mois d'avril, c'est le mois national de l'autisme et cette année, c'est aussi un anniversaire et pas des moindres. Celui de la loi de 2005 qui a marqué un tournant dans la démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Alors, on va rappeler en quelques mots les extraits de cette loi. La République garantit l'égalité des droits et des chances, la pleine participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, cette chronique est l'occasion parfaite pour nous pencher sur le sujet de l'inclusion des personnes porteuses de ce que l'on nomme un trouble du spectre de l'autisme. Et on accueille aujourd'hui en studio Sandrine Sanchez, qui est formatrice à l'ANCEIS de l'Ain pour la filière éducateur spécialisée, Émilie Ballet, éducatrice spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme, et Pascaline Devoise, vous êtes étudiante en troisième année d'EDUCSPÉ en apprentissage auprès des personnes porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme. Alors, on va démarrer cette chronique et on peut rappeler dans un premier temps à nos auditeurs et auditrices ce que nous entendons par ces termes qui appartiennent à un domaine spécialisé.
Bonjour et merci Clémence pour cette introduction. Donc en effet, qu'est-ce qu'on entend par inclusion ? Souvent on confond inclusion et intégration, mais c'est des concepts bien différents. Là où l'intégration, elle pousse l'individu à s'adapter aux normes du groupe, l'inclusion, elle, vise surtout à transformer notre société dans son ensemble. C'est le groupe qui s'adapte à l'individu en valorisant et en acceptant sa différence. Et effectivement, c'est une question de droit, de respect et dignité. Cette démarche, elle demande vraiment un désir de rencontrer l'autre, de le connaître, de mieux s'accueillir et s'adapter mutuellement.
Donc si on veut aborder la question de l'inclusion des personnes porteuses d'un TSA, il faut comprendre ce que c'est l'autisme. Alors un micro-trottoir a permis de faire un petit état des lieux des connaissances de ce trouble auprès du grand public.
C'est une personne, je ne sais pas le définir, voilà. D'accord. Je ne sais pas. Médicalement, alors soit c'est pas comme les personnes qui sont trisomiques ou qu'elles y manquent un chromosome, là je sais pas, c'est d'accord. Au niveau du cerveau. Donc médicalement ou tout ça, je ne saurais pas définir exactement.
Je ne connais pas très bien, mais pour moi, quand je vois par exemple les enfants, je me dis que c'est de toute façon quelqu'un qui a une différence par rapport au lambda, je veux dire. C'est forcément quelqu'un qui a une différence dans le comportement, pour les enfants, dans leur évolution, dans leur développement, etc. Je ne connais pas d'adultes, mais j'imagine que c'est la même chose et que ce handicap, puisque je pense que c'est quand même un handicap, il doit subsister. C'est quelque chose qu'on doit avoir toute la vie et qu'après, c'est toute une gestion, c'est toute une prise en charge qui aujourd'hui n'est sûrement pas correcte en France, mais qui pour autant, il y a quand même des choses qui existent, qui n'est pas complètement noir. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de différent et qui n'est pas forcément facile à vivre.
Le trouble de la sphère autistique, exactement, c'est une maladie psychologique. Ça fait longtemps. ça touche au comportement. Après, il y a différents types d'autisme. Je ne les ai plus en tête, notamment Asperger et autres, qui vont du coup jouer sur les comportements. Là, ça va être sur la concentration, là, ça va être la sociabilisation. Ça peut être. C'est tellement vague en fait, voilà, c'est tellement propre aux individus.
Les personnes en difficulté, ouais.
D'accord.
Que ce soit mental, je pense surtout.
Ouais.
Donc voilà.
C'est une maladie chez les enfants, enfin chez tout le monde, que tout le monde peut avoir, chez les enfants, les adultes. Et c'est. Ils sont un peu dans leur bulle en fait. Et ils ont du mal en société, tout ce qui est niveau social, contact avec les autres. Ils fonctionnent un peu différemment.
Donc ces retours sont très parlants effectivement parce qu'ils permettent de venir repréciser ce qu'est l'autisme et de déconstruire la représentation. Puisque contrairement à ce que l'on entend encore trop souvent, l'autisme n'est pas une maladie ni un trouble psychiatrique et encore moins une trisomie 21. C'est avant tout un trouble neurodéveloppemental, TND, qui trouve ses racines dans le fonctionnement et le développement du cerveau. En effet, les personnes autistes vont traiter les informations de manière différente, ce qui se traduit par des particularités sensorielles et cognitives. Par exemple, certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles aux bruits forts ou aux lumières vives, tandis que d'autres peuvent avoir des perceptions accrues de détails qui pour nous passent inaperçus. Sur le plan cognitif, ça peut se manifester par des façons différentes d'apprendre les choses, avec des talents parfois inattendus dans des domaines bien spécifiques. Et ces différences vont bien sûr influencer la perception du monde et par conséquent la manière de communiquer et de s'y intéresser. Je souligne qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. Donc, il est important de comprendre que l'on ne devient pas autiste, mais que l'on est autiste. Et par conséquent, que les symptômes vont se manifester avant l'âge de 3 ans. On va garder aussi à l'esprit qu'il s'agit d'un spectre. Donc, chaque individu est unique et les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Donc, la communauté scientifique et médicale parle de diade autistique en repérant deux grands domaines, d'une part la communication sociale et les interactions, et puis de l'autre côté, plutôt les comportements, activités, les intérêts spécifiques, restreints, etc. Plus on diagnostique tôt, plus on peut amener des interventions adaptées et améliorer considérablement, effectivement, l'autonomie, les interactions, la participation sociale des personnes TSA.
Merci Sandrine pour les précisions. On va écouter un nouvel extrait du micro-trottoir, cette fois-ci, qui interroge la place finalement des personnes TSA dans notre cité, dans la cité, pardon, l'école, le travail ou encore les loisirs.
Oui. Parce que moi je travaille avec les enfants justement. Ouais. Et puis donc j'ai déjà eu plusieurs fois à m'occuper d'enfants porteurs d'autisme. Et puis aussi à l'école, t'as déjà eu des camarades.
Oui. Ils avaient un peu de mal. Mm-hmm. Le maître, il leur parlait un peu.
D'accord.
Et toi, c'était bien qu'ils soient dans ta classe ou dans ton école?
Oui, je ne me dérangeais pas.
Ouais.
Des enfants de collègues.
D'accord. Des enfants de collègues, elles sont, qui sont inscrits à l'école.
Ouais.
Du coup.
Des spécialisés. Ouais.
Des écoles spécialisées, donc pas des écoles.
Non, pas des écoles publiques.
Des enfants autistes aujourd'hui, alors après je ne connais pas toutes les règles, mais c'est sans doute en fonction de certains degrés de comportement, de choses comme ça, mais on a des enfants autistes à l'école.
Adultes
dans
le travail.
Et dans le milieu adulte, j'en connais pas.
Vous n'en connaissez pas.
J'en connais pas, et moi il y a plus de 15 ans que je suis à la retraite, mais je travaillais à la sécurité sociale, alors c'est vrai que c'est des choses dont on entendait parler.
Et dans le cadre du travail pour vous, est-ce que vous avez côtoyé des personnes en situation d'autisme qui travaillaient pas en...
Non, ça m'est jamais arrivé. Non.
Pas du tout.
Non.
Jamais aussi. Et dans le loisir?
Non, pas dans le loisir. Non.
D'accord.
Une nièce qui a un mari, qui a une entreprise, mais qui est dans la Drôme, et qui emploie une personne qui est autiste.
D'accord.
Et qui est autiste
Asperger.
Asperger. Voilà.
D'accord.
Et ça se passe très bien.
Donc après ces témoignages, je vais laisser la parole à nos professionnels pour nous éclairer sur l'état des lieux que nous pouvons faire aujourd'hui sur la mise en œuvre donc de la loi de 2005. Alors Émilie Ballet.
Merci Clémence. Et oui, en effet, on peut dire que la loi de 2005, elle a posé quand même un principe fort qui est tout enfant en situation de handicap doit être scolarisé en milieu ordinaire aussi près que possible de son domicile et que les loisirs sont un droit pour tous et que la loi impose leur accessibilité et sous différentes formes d'inclusion qui existent aujourd'hui et qui peuvent être adaptées autant qu'il se peut aux enfants autistes. Alors du côté de l'école, on a la création des ULIS écoles ou collèges, qui sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. C'est des petits groupes en fait, qui accueillent des enfants, environ 12 élèves en situation de handicap, avec un enseignant spécialisé. Et les enfants sont rattachés à leur classe de référence. Donc un enfant de 6 ans qui serait rattaché à sa classe de CP. Et le dispositif est un lieu, du coup, le dispositif ULIS, c'est un lieu d'apprentissage pour certaines matières, ou ça peut être également un lieu de répit. Et c'est ce qui permet également à l'enfant de gérer parfois le groupe classe qui est un peu trop lourd. Donc finalement, l'enfant, il alterne entre la classe ordinaire et l'ULIS. On a également des ULIS TSA qui ont été créés pour accompagner spécifiquement seulement des enfants autistes. On a aussi, donc, dans les classes maternelles, on a eu la création des UEMA, qui sont des unités d'enseignement maternel pour enfants autistes, qui sont vraiment des dispositifs au cœur des écoles. Et là, c'est un enseignant de l'éducation nationale et puis une équipe médico-sociale, éduc, psychomotricienne, neuropsychologue, orthophoniste. Et finalement, ils sont là pour travailler les prérequis aux apprentissages scolaires et permettre en fait une inclusion progressive, puisque le but de l'UEMA, c'est de pouvoir intégrer des enfants dans une classe ordinaire de CP à l'issue de l'UEMA, avec ou sans le soutien du dispositif Ulysse. Et on n'oublie pas du coup les AESH qui ont une place très importante pour les adaptations dans les classes, et également les CESAD qui sont là pour accompagner.
Est-ce que vous pouvez nous donner simplement, Émilie, la définition de CESAD ?
Le CESAD, qui est un service éducatif de soins et de soutien à domicile.
Très bien. Et dans le milieu spécialisé, qu'est-ce qui s'y passe finalement ?
Alors, dans le milieu spécialisé, au sein des IME, qui sont des instituts médico-éducatifs, on a des classes avec une enseignante de l'éducation nationale. Et ces classes, souvent, elles sont externalisées. Donc, elles se passent à l'extérieur de l'IME, dans les écoles directement ou dans les collèges. Et puis, c'est ce qui permet du coup à l'enseignant spécialisé et les éducateurs de pouvoir créer des projets communs avec des classes ordinaires et puis permettre des inclusions pour les élèves dans certaines matières. On a également dans les loisirs. Dans les loisirs, il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour l'accès à la culture. On a de plus en plus d'initiatives qui ont vu le jour. On a des séances de cinéma adaptées. On a des animateurs du coup de centres de loisirs qui sont de plus en plus formés. Et beaucoup de partenariats avec des associations pour les colonies de vacances, les clubs sportifs inclusifs. Et finalement, il y a plein de choses qui naissent avec une vraie volonté des professionnels à pouvoir inclure les personnes autistes. On a aussi le ministère de la Culture qui est en train de créer un guide à destination de tous les professionnels de la culture, dans tous les territoires et dans tous les secteurs, qui a vocation en fait de proposer des actions simples qui pourront changer finalement l'expérience culturelle des personnes TSA. Et ce guide, il sera diffusé courant 2025.
Merci, Émilie. Alors maintenant, autour de Pascaline, vous êtes en apprentissage dans un dispositif d'accompagnement professionnel pour personnes porteuses d'un TSA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'inclusion professionnelle ?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'emploi des personnes autistes est encouragé par la loi 2005, par le fait qu'elle impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher au moins 6% de travailleurs en situation de handicap, que les différents plans autisme sont venus renforcer cette obligation en favorisant l'accompagnement et l'insertion des personnes TSA dans le monde du travail. L'objectif, c'est d'adapter l'environnement professionnel, de sensibiliser les employeurs et de mettre en avant les compétences précieuses de ces travailleurs. Alors, où en sommes-nous en France ? En France, selon l'association Autisme France, seulement 15 à 20% des personnes autistes occupent un emploi, ce qui signifie que le taux de chômage atteint environ 80%. Pourtant, un environnement adapté et une approche bienveillante, les entreprises, elles pourraient gagner à les embaucher. Au-delà des idées reçues, les personnes porteuses d'autisme, elles ont souvent de nombreuses compétences qui peuvent faire la différence. Leur vision unique du monde permet d'innover autrement et de revoir notre façon de travailler. Il est noté que la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, RQTH, permet aux personnes porteuses d'autisme de bénéficier de divers dispositifs facilitant l'inclusion professionnelle. Par exemple, dans l'Ain, il y a le DIMAP, le dispositif mobile d'accompagnement professionnel. C'est un dispositif innovant qui accompagne des jeunes de 16 à 30 ans dans leurs projets professionnels et qui aide les entreprises à adapter leurs conditions de travail. Contrairement aux idées reçues, ces adaptations, elles sont souvent ni complexes ni coûteuses. Il s'agit souvent de petits ajustements, faciles à mettre en œuvre, comme un environnement plus structuré, des consignes claires et écrites, ou un espace plus calme. Ces aménagements, ils ne sont pas seulement profitables pour la personne TSA, mais aussi pour tous les employés. Il existe également les dispositifs d'emploi accompagné, qui permettent aux personnes TSA d'accéder et de maintenir un emploi grâce à un accompagnement personnalisé. Ça a créé des liens entre les professionnels du médico-social et les entreprises pour adapter le travail aux besoins de chacun. Enfin, il y a les ESAT, établissements ou services d'aide par le travail, hors mur, qui permettent aux travailleurs en situation de handicap, et notamment les personnes porteuses de TSA, de travailler en entreprise tout en étant accompagnés par des professionnels du médico-social. Ça les aide à développer des compétences et leur autonomie, ça facilite leur transition vers un emploi classique et ils bénéficient tout de même d'un cadre rassurant tout en s'adaptant progressivement aux exigences d'une entreprise.
Merci Pascaline. Donc on peut dire que la démarche est en route et pour autant, Il semble quand même qu'il persiste des difficultés, des freins pour rendre possible cette démarche d'inclusion. Alors on va écouter de nouveau les citoyens qui peuvent s'exprimer sur un micro-trottoir.
Pouvoir les accueillir, on va dire, pour qu'ils soient bien.
Parfois, ce serait quoi les moyens ?
Eh ben, plus de formation, on va dire, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent à certains moments. Mm-hmm. Quand, notamment quand il y a des crises et qu'on ne comprend pas pourquoi, on a beau proposer tout ce qu'on a et ça ne suffit pas, et du coup, on est vite démunis.
Qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour vous ?
Plus d'encadrement, je crois.
Nos ATSEM, nos personnels qui sont autour, finalement, ils ont réussi à l'apprivoiser, à mettre en place une relation de confiance. Et du coup, ça se passe plutôt mieux.
Elles ont été aidées pour ça ?
Elles ont été aidées dans leur formation professionnelle. Mmh. Et puis avec les professionnels, enfin les instits, enfin, etc. Alors nous, on les soutient en mettant plus de monde. Mmh. Hein, par exemple, on a renforcé l'équipe d'ATSEM. Hein, parce que on a trois classes de maternelle et au départ il n'y avait que trois ATSEM, maintenant on en a mis une quatrième.
D'accord.
Déjà depuis un an ou deux, hein, parce qu'on s'est rendu compte que l'école inclusive, elle nécessite des moyens aussi. Hein.
L'école c'est compliqué, l'inclusion scolaire on voit bien, mais les professeurs ne sont pas tous formés aux différents handicaps, et notamment les troubles autistiques, il leur faut une personne qui soit avec eux tout le temps.
Même la question d'accès aux loisirs.
Oui, voilà. Donc avec nos moyens aussi d'une commune, hein, mais bon, voilà, on a été sensible à cette chose-là, et je pense que ça se passe pas trop mal.
On n'est pas formé, même dans le civil ou n'importe. Moi, je saurais pas comment me prendre avec une personne qui est autiste ou un enfant qui est autiste, parce qu'il y a différents degrés, je suppose.
Encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître tout ce qui est tous les handicaps, hein, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, mais pour pouvoir adapter les accompagnements et que les gens n'en aient pas peur, parce que la société a aussi peur de rien du handicap. Enfin, moi, j'ai pu observer ça dans mon travail, c'est pas forcément des regards méchants, c'est surtout des regards de peur et de curiosité, de qu'est-ce que c'est, comment réagir. Et j'entends beaucoup de gens me dire, mais moi je ne sais pas comment réagir face à une personne en situation de handicap.
Il y a 20 ans en arrière, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Même les médias, parce que moi qui écoute beaucoup la radio, qui suis beaucoup d'émissions dites médicales, qui sont là pour nous informer, aujourd'hui on en parle.
D'accord.
En ce moment, il y a plein de choses qui se disent. Il y a 20 ans en arrière, on n'en parlait pas de tout ça.
Donc ça évolue.
Donc c'est aussi pour ça que peut-être on était moins sensibilisés. Il y en avait sûrement autant, mais on n'en parlait pas. C'est comme beaucoup de faits de société. Mm-hmm. Hein. Il y en avait sûrement autant, mais on n'en parlait pas. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a une évolution. Ce qui, certes, est sûrement insuffisante. Mais on va quand même dans le bon sens. Et pour connaître d'autres pays, parce qu'avec mon mari, qui malheureusement n'est plus là, mais on faisait de l'humanitaire, on était dans différents pays. Je peux vous dire qu'on est bien heureux d'être en France. Hein.
Alors, ces regards différents nous éclairent beaucoup. Et qu'est-ce que peuvent nous en dire nos professionnels, du coup ?
Eh bien, qu'effectivement, on a des avancées, mais qu'il y a encore des difficultés. La peur, le manque de formation, en effet, ça se ressent encore aujourd'hui. Mais on a quand même le plan autisme qui a été renouvelé 2023-2027 avec 6 engagements qui montrent vraiment un état d'avancement positif. Alors, il y a un gros accent qui est mis sur la formation. Hein, vraiment, il y a des choses qui se développent de plus en plus dans tous les secteurs. Et puis, on a un petit retour qui nous a été fait à un an du coup de ce plan autisme, et on a eu la sortie du deuxième volet du guide de sport et autisme. On a eu la tenue de 3 sessions de formation du certificat fédéral sport et autisme qui est proposé par la FFSA, et le programme aussi national ATP Friendly qui participe à rendre l'enseignement supérieur accessible aux étudiants avec un trouble du neurodéveloppement.
Il y a le déploiement sur le territoire national de dispositifs d'emploi et d'habitat pour les adultes avec un autisme sévère, vert, avec un objectif de mise en œuvre d'un dispositif par département. Et concernant le travail, il est encore primordial de pouvoir informer les entreprises et de les sensibiliser aux adaptations et aux aides, aux bénéfices et aux adaptations disponibles pour l'emploi d'une personne porteuse d'un TSA, comme évoqué précédemment.
Et n'oubliez pas qu'effectivement, on en parle et que le mois d'avril, il est le mois de l'autisme et qu'il est porteur de nombreuses initiatives pour sensibiliser autour de cette thématique, qu'il y a des pièces de théâtre, des journées portes ouvertes, des animations pour les petits et les grands, les citoyens comme les professionnels.
Merci beaucoup à toutes les trois pour ces précisions. Alors, que retenir de ce temps de partage ? On va conclure avec Sandrine Sanchez.
Alors merci, j'ai envie de dire que l'enjeu est sociétal, on doit essayer de bâtir un environnement où chacun, quelle que soit sa différence, trouve sa place et peut s'épanouir, mais qu'on est dans un contexte sociétal en souffrance, donc le parcours est de longue haleine. Pour autant, on a bien vu, institutions, associations, professionnels, dispositifs, travail pour construire cet avenir inclusif. Et si ça s'inscrit dans les lois, c'est important de le situer. Ça s'inscrit dans les lois françaises, mais aussi dans les conventions relatives aux droits des personnes handicapées qui a été signée par l'ensemble des pays de l'Union européenne. On reste vigilant puisqu'on s'aperçoit que dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a des reculs qui peuvent survenir assez rapidement. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser cette tendance s'imposer à nous pour réussir effectivement à déployer chez chacun et chacune des citoyennes et citoyennes le sentiment d'appartenance pour ne pas être en souffrance ensemble, mais bien en plaisir ensemble, un ensemble qui nous grandit. Et puis la belle émission, j'ai envie de souligner, des Rencontres du Papotin, diffusée depuis maintenant 3 ans sur, tous les mois sur France 2, nous montre bien que toute la beauté de et la richesse de cette partage. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Sandrine, Pascaline et Émilie. Alors c'est la fin de la chronique Socialement Vôtre du mois d'avril et on se retrouve pour une prochaine chronique sur Radio B. Et puis évidemment, cette chronique sera en podcast avec plusieurs liens qui seront bien utiles pour nos auditeurs. Voilà, bonne journée.
Merci.
Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANSEIS.